des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, on part en enfance. Car où est l'enfance et l'âge d'or, comme disait Novalis? On y part avec deux artistes qui sont un peu devenus les doudous littéraires des petits et des grands. Côté petit, c'est Timothée de Fombelle, l'auteur de Toby Lawless, entre autres, qui signe un nouveau livre pour les enfants. Capitaine Rosalie, c'est chez Gallimard Jeunesse. Et côté moins petit, peut-être, c'est Nicolas de Crécy, alphare du meilleur album français au Festival d'Angoulême pour Léon Lacam, et qui signe, lui, son premier roman illustré, Les amours d'un fantôme en temps de guerre. C'est chez Albin Michel. Bonjour Nicolas de Crécy.
Bonjour.
Bonjour Timothée de Fombelle.
Bonjour.
Alors Timothée de Fombelle, vous êtes l'auteur de bien des livres pour la jeunesse, citons Van Gogh, roman d'aventure troussé comme une course-poursuite dans l'entre-deux-guerres, depuis le parvis de Notre-Dame jusqu'aux îles éoliennes, l'auteur aussi de Victoria Rêve, l'histoire d'une petite fille qui veut une vie d'aventure et dans l'existence de laquelle un monde imaginaire va débarquer, comme descendant en rappel depuis les pages des livres de sa bibliothèque, et du mythique Toby Lawless, une somme parue aussi chez Gallimard, traduite dans 29 langues, couronnée par 27 prix littéraires, et qui compte les aventures d'une population lilliputienne qui vit dans les arbres. Vous revenez, et c'est un léger changement de décor, avec Capitaine Rosalie, illustrée par Isabelle Arsenault, c'est chez Gallimard Jeunesse. Vous nous y plongez dans l'hiver 1917 et dans le quotidien d'une petite fille courageuse dont le père est au front et qui, au fond de la classe, se prépare au combat parce qu'elle a un plan, nous dit-elle. Un livre pour les enfants, mais pourtant un thème grave.
Oui, mais je crois que rien de mieux qu'un thème grave pour le donner aux enfants. Je pense qu'il y a une capacité au sérieux, comme disait Saint-Exupéry, chez les enfants, qui fait qu'au contraire, on peut y aller assez frontalement pour parler des sujets. Et là, par exemple, de l'absence, de la guerre et de la recherche de la vérité.
Nicolas de Crécy, on vous connaissait comme l'auteur du Bi Madame Céleste, de Léon Lacam, j'en parlais tout à l'heure, de Période glaciaire sur le Louvre, que j'adore. Vous voilà désormais, alors je ne sais pas, d'ailleurs je vous poserai la question, du côté des enfants, des moins enfants, avec une histoire de fantômes, mais de fantômes amoureux. Ça s'appelle Les amours d'un fantôme en temps de guerre, c'est écrit en petit, presque en sous-titre. C'est publié chez Albin Michel. Le livre vient d'obtenir le prix vendredi. Et c'est l'histoire d'un petit fantôme qui cherche ses parents disparus et qui se retrouve plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, pas celle des hommes, mais une sorte de Seconde Guerre mondiale des fantômes qui se trouve être tout à fait symétrique de celle des hommes, car on y retrouve les collabos, la milice, la Gestapo, un maréchal, hein, on les appelle les fantômes acides, ceux-là. Puis en face, il y a les bons fantômes, les résistants, auxquels appartient votre petit fantôme à vous. Même question qu'à Timothée de Fombelle, un livre a priori pour les enfants, et pourtant aussi un thème grave, d'ailleurs encore la guerre.
Oui, effectivement, c'est curieux que cette thématique apparemment revienne pas mal dans l'expression de certains artistes et aussi dans l'actualité. Bon, après, effectivement, ce livre, je l'ai conçu au départ pas obligatoirement. J'avais pas l'idée d'un public précis, que ce soit pour la jeunesse ou non. En fait, j'ai fait le livre et ensuite, il s'est trouvé que, éditorialement, il correspondait plus à l'édition jeunesse. Mais que ce soit au niveau graphique comme au niveau de ce qui est dit, je pense que les enfants sont ouverts à beaucoup de choses sans aucun problème.
Alors merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. On vous a réunis parce qu'on est un peu avant Noël et que c'est le moment de transmettre aux parents, aux grands-parents et même aux enfants qui nous écoutent que la lecture c'est quand même quelque chose qu'il faut goûter tôt tellement c'est bon. Mais on vous a réunis aussi parce que, on vient d'en parler un petit peu, vous vous adressez aux enfants d'une manière qui n'est pas forcément peut-être celle qu'on attendrait. On est dans les deux cas avec vous, et vous en avez un petit peu parlé, dans des périodes graves, dans des sujets graves, la guerre, la résistance, le refus des compromis, la perte des gens qu'on aime aussi, les parents. Et je dirais globalement que pour vous deux, enfin, j'ai l'impression que vous travaillez sur l'idée de perte de l'innocence, hein, puisque c'est un peu ce qui se passe dans chacun de vos livres, alors que vous vous adressez à un âge réputé innocent, même si Nicolas de Crécy, vous disiez au départ, j'ai commencé, je ne savais pas quel était le public, mais finalement, les éditeurs ont décidé que ce serait plutôt pour la jeunesse. Et la jeunesse, on dit que c'est l'âge de l'innocence. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal, Timothée de Fombelle.
Je crois que, alors là, il y a une sorte de malédiction de l'auteur adulte écrivant pour l'enfance. Voilà. C'est qu'il ne peut l'approcher que par la ligne de crête, ou plutôt le chemin de ronde qui est autour de l'enfance, cette enfance. Il ne peut l'approcher que justement par la sortie de l'enfance, par toutes les portes de sortie de l'enfance. Et ça, c'est vraiment, même Nicolas n'est pas capable d'analyser ça parce qu'il en est son premier livre. Mais moi, vieil auteur chevronné pour la jeunesse.
Blanchi sous le harnais.
Voilà, exactement, le harnois.
Le harnois ou le harnais. Le harnouais, d'ailleurs.
Voilà, oui, c'est vrai.
Le harnouais.
C'est vrai, le harnouais. Voilà. Eh bien, je vois ça. Je vois que c'est toujours qu'en fait, je frôle l'enfance, mais que je ne peux pas y mettre les deux pieds. Et donc.
Ouais. Je parlais pas d'enfance, je parlais d'innocence.
Oui,
c'est ça.
Mais l'innocence, c'est justement
l'âge où l'on ne sait pas.
C'est voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et c'est le moment qui précède cette sortie qui est impossible à dater d'ailleurs pour chacun. Et je pense qu'en écrivant pour la jeunesse, on passe son temps à travailler sur ce col-là, sur ce col du passage, entre l'innocence et la naissance,
la connoissance.
Exactement. Je pense qu'il faut être assez modeste quand j'aimerais pouvoir parler de l'enfance de l'intérieur, mais fatalement, je n'en suis pas capable. Et à vrai dire, je suis même pas sûr que les enfants en sont capables eux-mêmes, parce que dès qu'ils prennent le recul, ils passent au-dessus des crêtes, justement.
Ouais. Et sur ce paradoxe, l'idée qu'on introduisait là, paradoxe de parler de choses justement graves ou de la perte de l'innocence à un âge où on est censé pouvoir encore profiter d'une certaine innocence. Vous les déniaisez tous les deux, en fait. Voilà.
Mais moi, en fait, oui, toute la difficulté, et c'est pour ça que j'ai fait parler un personnage qui, en fait, est un enfant et en même temps ne l'est pas.
Oui.
Puisque c'est un fantôme, et en âge de fantôme, le fait que c'est un jeune fantôme, il a quand même 89 ans en âge d'humain. Enfin, ouais. Voilà. Donc moi, ça m'a permis de parler à la première personne, de parler en tant qu'enfant, d'essayer de trouver un langage assez neutre et un langage d'enfant un peu innocent, et en même temps d'y mettre ce que je suis en tant qu'adulte. Pour ça, le fantôme, enfin, ce personnage de fantôme était assez intéressant. Pour
l'âge.
Parler.
Mais votre fantôme, il aurait pu parler, de la beauté du monde, cueillir des petites fleurs.
Oui, mais ce serait peut-être ennuyé.
Voilà.
Enfin,
vous choisissez. Il y a ça aussi, quand même. Il y a le terrain de jeu et d'aventure qu'est l'épreuve de la guerre, de l'absence, de la maladie. Ça peut être plein de choses, mais pourquoi, à la première page de tout livre jeunesse, on commence par se débarrasser des parents, par exemple?
C'est vraiment un vieux
principe,
c'est vrai.
Une technique. Ouais. Voilà, le petit Georges était malheureusement seul parce que ses parents étaient partis en vacances ou c'était absent. Parce que c'est là qu'il devient intéressant, c'est livré à lui-même.
Il y a une marâtre souvent d'ailleurs.
Il peut y avoir une marâtre qui devient l'obstacle. Et ces obstacles, ces épreuves. Et ces guerres sont, il faut le dire, malheureusement, un terrain de jeu pour nous auteurs. Mais heureusement, on n'est pas les seuls, en écrivant pour la jeunesse, à voir le bouillonnement, le vivier d'histoire qu'il y a dans ces périodes de transition. Ouais.
Nicolas de Crécy, vous me répondiez sur l'âge tout à l'heure. Et d'ailleurs, je poserai la question à Timothée de Fombelle sur le choix d'une langue. Justement, ça vous permet, comme c'est un jeune fantôme, mais qu'il a 89 ans, il est à la fois dans une naïveté et en même temps dans une certaine maturité, c'est un peu hybride. Mais le fait que vous ayez choisi justement, vous disiez, il y a un hasard. Bon, on a beaucoup parlé de 14-18 ces temps-ci parce qu'il y avait une commémoration. Mais le fait je suppose que vous n'avez pas pensé à ça. D'ailleurs, c'est pas 14-18, ça serait plutôt 39-45 avec la
milice
et ces fantômes noirs, ceux qui collaborent. Voilà, les fantômes acides. Voilà. Le fait que vous ayez choisi cette période pour ce livre qui finalement s'adresse à la jeunesse. Donc,
en fait, cette période s'est imposée. Oui, mais ça s'est imposé. En fait, j'ai écrit ce livre d'une manière assez intuitive, c'est-à-dire qu'au départ, mon idée c'était plutôt de parler d'un petit fantôme et de sa vie sentimentale, c'est-à-dire qu'il découvrait un peu l'amour avec une petite fantôme, ensuite avec une petite chienne et ensuite bon. Et en fait, cette thématique s'est installée petit à petit. Parce que, enfin, j'ai écrit le livre il y a déjà un peu plus de 2 ans. Et c'était l'époque des primaires où Trump commençait à s'apercevoir qu'il allait avoir le pouvoir. Il y avait le Brexit. Enfin, il y avait toutes ces choses-là qui montaient un petit peu et qui me posaient problème. Et en fait, cette thématique-là s'est imposée. Et je me suis dit...
Thématique de 39-45.
Oui, ouais, parce que je voulais parler d'une époque actuelle qui est un peu, qui est un petit peu stressante à différents niveaux, et je voulais replonger historiquement dans une, pas dans une période qui peut y ressembler, mais de quelque chose qui était un peu.
Oui, dont vous trouviez qu'il y avait des échos aujourd'hui, c'est ça?
Oui, il y a quelques échos. Alors évidemment, c'est un peu. On va pas rentrer dans cette polémique qu'il y a eu récemment avec Macron par rapport à on est dans les années 30, etc. Polémique, effectivement, qui n'avait pas eu lieu à l'époque où j'ai écrit tout ça. En fait, la guerre que je mets en scène, c'est simplement un alibi pour parler de ce qui me préoccupe aujourd'hui. Mmh. Et de faire passer ça, effectivement, aux jeunes lecteurs qui ont toujours connu les temps de paix, enfin moi aussi, hein, oui. les temps de paix et la démocratie, et de dire qu'elle est un petit peu fragile, et qu'il faut être vigilant.
Sorte de mise en garde. Ouais. Alors, je voudrais citer Tommy Unger, le pape de la littérature jeunesse, celui qui a toujours été un peu provocateur, même très provocateur, et qui disait qu'il fallait faire peur aux enfants mieux... Il disait, un ciel bleu sans nuages sur une plage, quoi de plus ennuyeux? La vie, c'est le défi. Il faut traumatiser les enfants pour leur donner une individualité. C'est aussi ce que vous pensez, Timothée de Fombelle?
Je l'ai rencontré, Tommy Ungerer, et justement, il m'a effrayé. C'est mon demi-dieu, mais il était à côté de moi, il signait, il avait une cigarette électronique avec un petit bout lumineux. Et il brûlait la main des enfants brutalement quand il lui tendait leur livre à signer. Et c'est vrai, il le vit. Vraiment, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, j'ai rencontré sa fille qui m'a dit que quand elle était petite, Tommy arrêtait la voiture quand il y avait un chat écrasé et faisait descendre toute la famille et leur montrait ce qu'ils allaient devenir s'ils ne regardaient pas à gauche et à droite en traversant la rue. Et c'est vrai que la peur est un moyen, est un coin pour entrer dans le cœur du lecteur, quel qu'il soit. De même que les sens, l'émotion, la peur est ce moyen de rendre inoubliable ce qu'on raconte. Mmh. Ensuite, il y a toutes ces limites que l'on donne ou que l'on donne pas. Je sais pas, j'ai même pas regardé sur les livres, là, s'il y a toujours cette fameuse loi, la loi sur les publications pour la jeunesse, que je n'ai jamais lue, mais qui, en gros, dit qu'il ne faut pas démoraliser la jeunesse. Je crois que c'est ça la grande idée, ne pas démoraliser.
Désespérer Billancourt.
voilà, c'est ça. Et je pense que le livre ne peut pas désespérer, quel qu'il soit pour moi. Le livre.
En tout cas, faut pas les préserver. Pour vous, faut pas les préserver des choses tristes ou des choses. Alors, Unger dit traumatiser
le mot est un peu fort.
Il y a une vieille tradition des contes traumatisants, les frères Grimm. Enfin, il y a des choses épouvantables, donc c'est pas nouveau en fait.
Ah bah, Barbe bleue, c'est
oui, Barbe bleue, il y a plein de choses effrayantes. Donc, c'est bien d'y revenir.
À condition qu'on réenchante le réel en même temps. C'est-à-dire, pour moi, c'est le deuxième côté. C'est là, il y a un garçon qui m'a demandé. Pourquoi, c'est vraiment la question qui arrive au milieu de combien de temps vous mettez, etc. Tout à coup, il y a une question, pourquoi vous écrivez? Et là, le vertige. Et en fait, je crois que j'écris pour rendre la vie plus intense, plus belle. Et c'est quand même ça, plus que de faire peur aux enfants, c'est ça qui me guide.
Il y avait cette phrase qui va vous intéresser, d'ailleurs, d'Ungerer, Nicolas de Crécy, qui disait dans une interview, si mes livres pour enfants ont survécu, c'est parce qu'ils sont subversifs, parce que je montre aux gamins comment se moquer des adultes. Ce ne sont pas des imbéciles, ils savent très bien d'où viennent les bébés, mais ignorent d'où viennent les adultes. J'adore. Les traiter d'égal à égal avec vous, c'est aussi ce que vous cherchiez, par exemple, dans Les Amours d'un fantôme. C'est-à-dire, pas considérer que c'était un lecteur enfant forcément, mais d'égal à égal, pas comme justement des imbéciles ou des innocents.
Comme je disais tout à l'heure, le fait d'écrire en premier lieu, pour moi, je n'écris pas pour un public potentiel, c'est-à-dire que il y a la démarche d'écrire et ensuite ça va rencontrer un public ou un autre, et ça c'est quelque chose que je contrôle pas.
L'éditeur l'a fait pour vous.
L'a fait pour moi et il a estimé que ce que je racontais là était accessible aux enfants. C'est quand même un récit qui est assez pessimiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté qui est ouvert vers quelque chose de plus serein, n'existe pas.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Voilà, il n'y a pas de happy end, la fin est parfaitement sinistre. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas effrayé l'éditeur, et ce que je trouve très bien d'ailleurs, qui est un éditeur, Albin Michel Jeunesse, donc c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu peut-être une remarque sur le fait de revoir un petit peu la fin, de l'ouvrir, de dire « Ah mais ça serait bien à la fin peut-être que les résistants reviennent et qu'on comprenne que... voilà, qu'il peut y avoir une issue positive. » Et non, en fait, le texte a été accepté tel que. Et
Vous l'auriez fait si on vous avait demandé la perspective d'un public jeunesse, de revoir un peu la fin, de la rendre un peu plus joyeuse?
Peut-être, parce qu'après quelques lectures, après quelques avis, en fait, je l'ai écrit, je l'ai très peu montré. Et après quelques avis de lecteurs proches, on m'a dit, oui, mais c'est vraiment, c'est un peu dur. Et peut-être qu'avec des bons arguments, effectivement, j'aurais pu peut-être instaurer une fin un peu plus ouverte vers quelque chose d'un peu plus positif.
Mais je pense que cette innocence d'écrire sans savoir exactement à qui on s'adresse, c'est le seul moyen d'aller vers ses lecteurs. C'est-à-dire qu'il faut écrire complètement au premier degré. Je crois que tous les auteurs qui se sont dit tout à coup « Allez, je vais écrire pour ces petits-enfants » en baissant le regard bien bas pour les regarder... se sont plantés, en fait. Et moi, je me souviens que mon premier roman, Toby Lones, je l'ai envoyé des deux côtés de la rue, qui s'appelait pas Gaston Gallimard à ce moment-là, mais...
Sébastien Botin.
Sébastien Botin, ouais. Du côté adulte et côté jeunesse. Ouais. Et autant, côté jeunesse, j'ai eu une réponse dans le mois, autant côté adulte, 3 ans plus tard, est arrivée une réponse très classique, disant que ça ne correspond pas. Et entre-temps, le livre est sorti, traduit partout, donc c'était... Bien. Et voilà.
Un des traits communs de vos ouvrages, c'est que la narration est souvent, est assumée, par un narrateur qui est adolescent ou enfant. D'ailleurs, plutôt enfant. Bon, votre fantôme, j'arrive pas trop à le dater.
Un très vieil adolescent.
Voilà.
Que nous sommes tous.
Un adolescent. C'est pour vous la meilleure façon de les embarquer. Nicolas de Crécy disait tout à l'heure qu'il fallait trouver une langue. C'est votre cas, Timothée de Fombal?
Alors, pas
forcément. C'est une petite fille, qui raconte.
J'ai très peu de romans ou de récits à la première personne. Parce que j'aime l'omniscience, l'omnipotence du narrateur qui peut rentrer dans la tête de chacun. Donc déjà, je prends du recul par rapport à la voix d'un témoin qui pourrait ne raconter que ce qu'il voit. Mais je vais reconnaître quelque chose. J'ai écrit ce livre pour mon éditeur anglais au début. Et donc je l'ai écrit en sachant qu'il allait être traduit. D'abord, et je savais même pas s'il arriverait un jour en France.
Alors, finalement, c'était sorti. D'abord pour le public.
Oui. Et donc, j'ai choisi.
Il est sorti en Angleterre.
Il est sorti en Angleterre, finalement en même temps. Finalement, Gallimard a doublé et il est sorti en Angleterre, il est sorti en Italie, en Allemagne. Il est sorti vraiment dans toute l'Europe en même temps, ce qui est la première fois pour un livre. Normalement, ça s'étage sur 3. Mais là, vive la commémoration. Il est sorti un peu partout. Et ce qui est très touchant pour un. Quand on parle justement de la guerre de 14-18, ce petit livre qui se promène entre les frontières, là, je me suis dit, je ne peux pas écrire en anglais, je suis incapable d'écrire en anglais, ou dans n'importe quelle langue qui n'est pas la mienne, mais je veux quand même avoir ce contrôle d'une langue, d'une clarté, d'une simplicité, d'une fraîcheur absolue. Mmh. Et pour moi, c'était la langue de l'enfance. Et donc, j'ai commencé à écrire ce récit à la première personne.
Donc avec l'idée de ce que serait une langue de l'enfance.
Réinventer, d'ailleurs toutes les tentatives j'ai des copains qui vont quasiment faire des safaris dans les cours d'école pour regarder comment ça parle, pour pouvoir écrire comme eux. Ça, je n'y crois pas, je les encourage à continuer s'ils pensent que c'est bien, mais je n'y crois pas parce que je pense que tout est une réinvention et donc, mais il y a quand même cette eau claire de la langue de l'enfance.
Et pour vous, Nicolas de Crécy?
Mais la langue de l'enfance, reste à savoir si elle est la même aujourd'hui. Enfin, faire un safari dans une cour d'école, on a une façon de s'exprimer aujourd'hui. Enfin, les enfants ont une façon de s'exprimer aujourd'hui qui est pas la même qu'elle l'était au début de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est vrai que c'est pas. On est dans un langage différent. Donc, en fait, pour moi, c'était tout simplement plus simple de. Donc, c'est la première fois que j'écris un roman. J'ai écrit des choses, mais qui ne sont pas parues. Et là, l'exercice était difficile. Donc, pour moi, il était plus évident d'écrire à la première personne. Je trouvais que c'était moins compliqué. Pour mettre les choses en scène. Et en plus, ce petit personnage de fantôme, il fallait que, enfin, c'était obligatoire pour moi de le faire parler à la première personne.
Alors, il y a aussi un autre langage qui entre en jeu pour vous, Nicolas de Crécy, et qui n'est pas tout à fait votre cas, Nicolas de Fombal, c'est le langage de l'illustration aussi. C'est qu'en fait, les amours d'un fantôme, il y a souvent, pas à toutes les pages, mais souvent, un dessin fait par vous. C'est quoi? C'est de l'aquarelle, d'ailleurs, c'est très très beau.
Oui, c'est une technique simple. Enfin, c'est de l'encre noire et ensuite de l'aquarelle, quelquefois un petit peu de gouache. En fait, il y a pratiquement, il y a quasiment une image par en vis-à-vis de chaque page de texte. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a 120 dessins. Donc, c'est très illustré.
Mais ça, vous êtes posé la question. C'est vrai que vous êtes, vous êtes un grand artiste du dessin, de la peinture. Mais vous êtes posé la question de dire, je vais pas illustrer, ou c'était de façon posée d'emblée qu'il y aurait vos œuvres en vis-à-vis, si je puis dire.
Oui, c'était posé d'emblée. En fait, pour moi, c'est comme une étape pour passer du dessin à l'écriture. Alors, la bande dessinée, on est vraiment dans quelque chose d'hybride où les deux. On pratique les deux, on pratique l'écriture autant que le dessin, sauf que l'écriture est plus proche du théâtre dans le sens où on est plutôt sur les dialogues quand on écrit en bande dessinée. Donc il y a l'écriture du scénario, mais qui n'est pas visible, et ensuite l'écriture telle qu'on la voit passe par les dialogues. Et là, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer une écriture plus directe que celle de la bande dessinée, qui est quand même assez contraignante. C'est-à-dire que quand on veut mettre en scène toute une histoire, ça prend, il y a un an de travail pour la dessiner. L'écriture permet d'être quand même un peu plus directe et un peu plus rapide, et j'adore écrire parce que c'est vraiment... pour moi, c'est complémentaire du dessin, ça fait travailler une autre partie du cerveau, et pour moi, c'est très important de faire marcher les deux parties. Quoi.
Et ça a commencé par les images ou par le texte, en fait, cette histoire de photo?
Ça a commencé par un petit croquis que j'ai fait, j'avais fait un petit croquis comme ça sur une... j'en fais beaucoup quand je suis au téléphone ou quand je dessine sans cesse. Donc j'avais ce petit personnage que je trouvais intéressant, parce que justement, c'était juste un drap blanc, et sur ce drap blanc, on pouvait... je pouvais faire passer plein de choses, parce que c'est juste... c'était un personnage qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'expression. Et donc tout l'intérêt pour moi était de tout faire passer, d'essayer de faire passer tous ces sentiments par un drap blanc, ce qui est un exercice qui n'est pas évident.
C'était une sorte de contrainte, en fait.
Moi je me pose toujours des contraintes, je me mets des protocoles et ensuite je rentre dans ces... poser un cadre, c'est plus facile, effectivement, après, pour s'exprimer.
Donc c'est une image qui a déclenché...
Au départ, c'est une image. C'est toujours des... je suis très visuel, c'est-à-dire que l'écriture, c'est une traduction de ce que j'ai d'abord dans la tête au niveau de l'image.
Mais ce rapport de l'image au texte, il est assez unique. Je ne connais pas cette alternance rigoureuse d'une page de texte, à part dans des albums où il y a quatre lignes de texte. Mais cette alternance, il y a trois, quatre exceptions, mais à part ça, c'est toujours en vis-à-vis le texte, plus ou moins aéré d'ailleurs, et l'image. Et les deux étant extrêmement travaillé, c'est-à-dire c'est pas de l'illustration, on n'arrive pas à savoir ce qui mène l'autre, qui mène là-dedans. C'est pour ça que ça m'intéresse bien de savoir que c'est quand même ce petit fantôme sur un bout de papier.
Oui, c'était au départ, c'était vraiment ça, mais c'était pas évident en fait que ça fonctionne. Je me suis lancé dans le projet en me disant bon allez on tente, c'est une expérience. Moi il me semble que ça fonctionnait. Après j'ai été rassuré par les premiers lecteurs. Qui m'ont dit que, en fait, le risque, c'était que ce soit redondant, c'est-à-dire que ce qu'on avait dans l'image soit lisible dans le texte et inversement. Ce qui était le cas dans la première version, j'ai un peu élagué le texte pour éviter qu'il y ait des répétitions. Mais l'idée pour moi, c'était de faire rentrer dans une ambiance, c'est-à-dire de poser une ambiance par le dessin et ensuite qu'on puisse lire l'histoire en ayant le dessin en vis-à-vis qui donne simplement l'ambiance.
Alors, Timothée de Fombelle, vous n'illustrez pas, vous ne savez pas dessiner?
Non, je ne sais pas dessiner, et c'est pour ça que je suis vraiment intéressé par ça, parce que pour moi, l'image est tellement au-dessus de l'écrit que j'en reviens pas que quelqu'un qui dessine ait envie d'écrire, et en plus, y parviennent. Alors là, ça m'énerve. Alors, je suis très copain avec François Place, qui lui est. Lui, son premier roman, La Douane Volante, n'est pas illustré.
Non,
il avait illustré Toby Lounès, mais il a décidé justement pour faire cette rupture. Il a décidé de ne pas mettre un seul dessin. Ouais. À la limite, il aurait pu ne pas faire la couverture pour qu'on comprenne qu'il était auteur.
Oui, c'est un grand dessinateur. Alors justement, là, vous n'avez pas convoqué François Place. Vous avez choisi Isabelle Arsenault. Alors, comment on choisit l'illustrateur? Parce qu'on connaît, c'est vrai, votre compagnonnage avec François Place. Là, vous ne l'avez pas appelé.
Alors là, non. Ça, de toute façon, les grandes choses partent de petites infidélités. Et en fait, c'est des mariages d'éditeurs, mais qui sont... tellement... C'est une illustratrice canadienne, québécoise, extraordinaire, Isabelle Arsenault, qui d'ailleurs a fait de la bande dessinée, pas mal, et qui, là, est venue enluminer vraiment mon texte, glisser entre les mots. Et en fait, là aussi, j'espère qu'au bout du compte, on ne sait pas qui mène la danse.
On va demander à Nicolas de Crécy, qui est en train de feuilleter... votre livre, Timothée de Fombelle.
Les illustrations sont très belles, elles sont très délicates et c'est en fait elles sont, en même temps elles sont sobres, un peu comme le texte d'ailleurs qui est très sobre, qui est très on retrouve ces deux.
Mais vous aviez ces images qui arrivaient aussi au fur et à mesure ou après?
Non, c'est vraiment là, ça dépend complètement justement dans des suivant les projets. Il y a un travail en parallèle ou un travail successif. Là c'est une alternance. Je lui ai refilé le bébé et c'est elle qui l'a habillé.
Et vous étiez tenu d'accepter.
Une fois qu'on m'a dit Isabelle Arsenault, j'étais émerveillé qu'elle soit d'accord pour me suivre dans cette aventure. Et je savais que c'est plutôt un pacte de confiance à un moment qui se fait.
Voilà. Le mot aventure, on va y revenir avec vous parce qu'il est très important pour vous. Aventure et évasion, Timothée de Fombelle. On continue avec vous. On écoute d'abord votre choix musical avant de parler de plongée dans Capitaine Rosalie. Vous avez choisi Are You Lonesome Tonight d'Elvis Presley, mais avec une variation particulière, on écoute.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. Ooh, Lord.
Are You Lonesome Tonight d'Elvis avec une variation particulière. Il est en live, c'est le choix de Timothée de Fombat et il se met à éclater de rire.
En fait, une choriste commence à partir un petit peu au-dessus de ce qu'elle devrait et puis avec des problèmes probablement de volume en plus. Et je ne l'ai jamais autant cru, Elvis Presley, que dans ce rire-là. C'est-à-dire, tout à coup, c'est lui, c'est l'enfance, à vrai dire, en lui. Je me mets ça quand je suis déprimé parce que j'adore ce dérapage. Et puis, plutôt que de taper sur cette pauvre choriste, il continue, il se bat avec sa chanson et il rit.
Ouais, et ça, l'éclat de rire, quand il ne devrait pas se produire, justement, en principe, il ne rit pas. C'est quelque chose... Vous vouliez nous dire quelque chose, Timothée de Fombat, je suis sûr.
Je pense avec... Ça me rappelle, c'est dans, je parlais de Saint-Exupéry, il y a Saint-Exupéry qui raconte dans Terre des Hommes, à un moment, il raconte qu'avec ses sœurs, quand il y avait quelqu'un invité à la table familiale, très officiellement, quand il était petit, les enfants lançaient un chiffre, une note sur 20, pour noter cette personne, et personne ne comprenait d'où venait ce 11, ou ce 7. Ou ce 15, et il y a comme ça ce langage parallèle, imprévu, que seuls certains comprennent. Et pour moi, le rire fait partir ça. Je me souviens de fou rire dans des repas de famille où on n'aurait pas dû rire. Ouais, je trouve que c'est l'imprévu de l'enfance et ce fil-là qui vient se tisser avec le sérieux de la vie.
Alors, vous êtes l'auteur, Timothée de Fombat, je le disais tout à l'heure, à l'orée de cette émission, de bien des livres pour la jeunesse, des grands succès. Hein. Citons Van Gogh, qui est un roman d'aventure, une sorte de course-poursuite. Il est question d'évasion, on voyage dans le monde entier, Paris, les îles éoliennes. Je pensais aussi à Victoria Rêve, qui était une petite fille qui voulait une vie d'aventure. Et en fait, on avait l'impression que les pages des livres de sa bibliothèque descendaient presque en rappel, en fait, dans sa...
Elle veut une vie plus grande qu'elle. Ouais,
voilà. Ouais. Et Toby Lawlness, donc sur ce petit peuple des arbres, avec le monde d'en haut, les branches d'en haut et les branches d'en bas... Une dimension politique quand même hein, dans Toby Lawlness.
Oui, il y a cette géopolitique de l'arbre, ces grandes propriétés au soleil où on cultive le lichen en haut, le labyrinthe des basses branches avec des personnes souvent mises de côté, donc des questions climatiques ouais. aussi d'ailleurs, avec l'humidité très grande dès qu'on rentre à l'intérieur de l'arbre et la fragilité de ce monde. Donc c'est ouais. questions politiques et des questions de survie de cette boule verte qui ressemble pas mal à notre planète.
Voilà. Et puis là, changement de décor avec Capitaine Rosalie, donc petit livre carré, qui est publié aussi chez Gallimard Jeunesse, illustré par Isabelle Arsenault, et qui nous raconte vraiment très très courte et très forte histoire d'une petite fille dont le père est à la guerre. On est en 1418, en 1917 hein, en fait c'est l'hiver. Sa maman lui raconte les lettres du père, en fait elle lui lit. Et Capitaine Rosalie, c'est elle qui se surnomme comme ça parce qu'elle nous dit qu'elle a un plan. Le lecteur ne sait pas d'ailleurs ce que c'est, va vouloir découvrir aussi ce que sont vraiment les vraies lettres et va découvrir un tout autre texte. C'est intéressant parce que c'est une mise en abîme de la lecture dans ce livre. Au fond, elle fait l'apprentissage de la lecture et du vrai par rapport à la fiction. Contentait de lui raconter.
C'est ça. Alors, merci d'aller comme ça voir justement les couches qu'il y a dans cette histoire. Mais c'est exactement ça. C'est pas du tout un livre simplement de mémoire de ce drame qui a eu lieu il y a un siècle. Même si c'est là, derrière, c'est pour moi, il y a un fil qui est tendu avec le réel d'un enfant aujourd'hui qui apprend à lire et qui va découvrir comme la lecture est un moyen de connaître la vérité. Mais vous avez raison, et j'y avais pas pensé, que la fiction... pas pensé au fait que la mère, elle, est dans la fiction.
Ouais. Puisqu'elle lui raconte des belles choses.
Voilà, hein, qui est a priori tout ce que j'aime. Ouais. Et un peu comme dans le dernier acte de Cyrano, quand Cyrano qui lit la lettre et Roxane comprend qu'il la connaît par cœur, et donc que c'est lui qui l'a écrite, il y a quelque chose comme ça, de la vérité qui apparaît dans l'écrit, mais pas dans la voix, dans la voix de celle qui raconte.
Justement, on pourrait lire un extrait. En fait, on s'était dit qu'on lirait le début, mais page 15, en fait, le soir, ma mère vient me chercher dans l'école vide. Parce qu'elle est à l'école, Rosalie, c'est la petite, elle est au fond, d'ailleurs, elle se déguise, enfin, elle a les manteaux accrochés qui lui font un peu un abri, c'est la plus petite de la classe. Et le soir, évidemment, c'est elle qui reste le plus longtemps aussi, parce que sa maman travaille et fabrique des obus.
Ouais. Donc, le soir, ma mère vient me chercher dans l'école vide. Le maître et les élèves sont partis depuis longtemps. Elle me serre dans ses bras et frotte sa tête contre la mienne. Heureusement que je n'ai pas mon casque de soldat. Je respire ses cheveux qui sentent bon. Tu m'as manqué, Rosalie. Elle est très fatiguée et j'aime cette fatigue. J'aime quand le courage l'abandonne et qu'elle a les yeux rouges. Mais très vite, elle se redresse et prend ma main. Regarde. Elle sort de sa poche une enveloppe. Je reconnais les enveloppes blanches, remplies de tampons, d'inscriptions noires et rouges. C'est une lettre de mon père. Viens, Rosalie, je te la lirai. Quand elle m'emmène, en me tenant par la main, on ne peut rien voir sur mon visage. Je ne montre rien de mes pensées. Je sens les doigts de ma mère, qui serrent très fort ma main tachée d'encre. Quand je reviendrai, j'emmènerai Rosalie à la pêche. Allongée dans mon lit, je regarde ma mère qui est à côté avec la lettre posée sur ses genoux. Elle lit. J'ai pensé au ruisseau après le moulin. J'avais vu sauter des truites avant la guerre. Rosalie apprendra à nager. As-tu la recette des truites aux noix? Peux-tu être sûr qu'il restera des noix si je reviens au printemps? Je ferme les yeux. Je n'aime pas ces histoires.
Merci Timothée de Fombelle. C'est un extrait donc de Capitaine Rosalie. Et pendant que vous lisiez, je regardais le livre, et notamment puisqu'on en parlait avec Nicolas de Crécy, cette double page qui est assez magnifique, alors qui est pas de vous hein, là, non, puisque c'est pas vous qui dessinez, mais qui
est assez, pas le faire voilà, dans la plaie.
Et qui entre totalement en résonance avec ce qu'on disait, puisqu'il y a cette mère dont le visage est caché dans le découpage, et puis la position de la petite fille qui écoute la fiction qu'on est en train de lui raconter. Elle sait pas que c'est une fiction, elle croit que c'est la lettre du père. Ouais. Et qui est là avec les jambes recroquevillées. Une certaine tristesse aussi finalement, une beauté, une grande beauté, une gravité.
Voilà, ça devrait être le moment des retrouvailles entre la mère et sa fille, avec la présence du père par ses lettres. Et en fait, le mensonge qui se glisse là-dedans vient détruire la relation. Et la fille n'attend que la vérité. Et en effet, pour ne pas parler de cette pluie de fer qui tombe sur cet homme et qui est en fait ce qu'il raconte dans ses lettres, la mère raconte une autre histoire en croyant protéger sa fille, croyant, comme on le disait au début de cette émission, lui laisser son innocence.
Ouais. Alors justement, on parlait de cette mise en abîme de la lecture, c'est-à-dire cette petite fille qui va aller lire les véritables lettres, et notamment la dernière, dans une enveloppe bleue. Bon, on devine, le lecteur adulte devine ce qu'il y a dans la lettre bleue. Mais le lecteur enfant ne devine pas, il ne peut pas imaginer.
Non.
Est-ce que c'est aussi l'idée d'un certain... Je pensais, moi, à Léris, vous savez, la corne de taureau, le danger. Dans chaque... Il parlait de l'écriture, mais au fond, chaque écrivain étant aussi un lecteur, on pourrait finalement transposer Léris et ce danger de la corne de taureau dans l'expérience de la lecture. Est-ce qu'il y a cette idée-là aussi, qui est assez forte, de faire comprendre par cette expérience de lecture aux jeunes lecteurs qu'il y a un danger... Que le danger, c'est bon aussi.
Ouais. Là, pour le coup, la fiction fait ça, hein, de montrer que la menace qui pèse sur une scène qu'on raconte, par exemple, devient tout l'intérêt de cette scène. Et moi, qui écris plutôt, là, c'est vraiment un livre très intimiste, même si j'espère y mettre une aventure, mais moi qui écris plutôt de la saga d'aventure, c'est l'un de mes outils favoris, c'est de mettre un double fond à chaque scène et que le lecteur soit toujours plus intelligent que la scène qui se joue.
Je voudrais qu'on parle d'une notion qui me semble essentielle chez vous et qu'on retrouve dans Capitaine Rosalie, puisque cette petite fille s'échappe par la fenêtre de la classe pour aller lire les vraies lettres chez elle, protégée par un garçon plus âgé qui la couvre. C'est la notion d'évasion. Van Gogh, votre roman, était entièrement basé sur la notion d'évasion, puisque c'était un adolescent de 19 ans et demi qui devait être ordonné prêtre, qui était poursuivi par un crime qu'il n'avait pas commis, une sorte de conte de Monte Cristo à l'envers, quoi. Ouais. Enfin, il est tout pour ne pas devenir, d'ailleurs, voilà, Dantès. Il était obligé de s'échapper, il devait fuir la police qui l'accusait, et c'était l'évasion qui guidait. D'ailleurs, on le lisait d'une façon cavalcadante. C'est un peu ce qui définit aussi la lecture, l'évasion. Il vient d'où cette importance, ce thème chez vous?
C'est une obsession. J'ai des racines possibles de ça. Je pense en particulier à mon grand-père qui a été en captivité pendant la guerre et qui a raté la meilleure occasion qu'il aurait eu de s'évader au tout début, parce qu'il avait fait une promesse à ses supérieurs.
Mais où alors? Il s'est évadé quand?
Il était en Allemagne, dans un camp d'officiers. Un camp d'officiers. Et finalement, une fois dans le camp, il a compris que son devoir, au contraire, était de s'évader. Et quand il me racontait ça pendant des années et des années, il me racontait ces récits extraordinaires qui ont nourri mon écriture. Il me disait, évade-toi. La première occasion, évade-toi. Et j'étais certain que j'allais me faire un jour enfermer et que je devrais m'évader. Et quand mon premier livre est paru, qu'il a été reconnu comme un grand roman d'évasion, j'ai senti que cette manière de s'échapper alors c'est pas le divertissement pascalien de se détourner de soi, parce que pour moi c'est se retrouver au contraire par l'épreuve et par la fuite, par une forme de fuite. Mais il y a des gens qui sont claustrophobe dans mes histoires, tellement j'ai un beau-frère en particulier qui m'a avoué qu'il ne pouvait plus ces histoires de fugitifs.
Le début de Toby Loneless, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Il est obligé de se cacher dans un morceau des corps. C'est terrible. On raconte ça aux enfants, ils sont terrifiés. Mais ils aiment, ils adorent. Vous vous évadez, vous aussi d'ailleurs, quand vous écrivez, Timothée de Fombelle, parce que vous avez la particularité d'écrire dans une boutique, en fait, face à une vitrine. Les gens peuvent vous voir, c'est à Paris.
Ne donnez pas l'adresse, parce que déjà qu'on me glisse quelques messages sur ma porte. Mais oui, c'est à Paris, c'est une boutique. C'est simplement, alors là, c'est plus pour dédramatiser l'écriture, pour partir de chez moi, arriver comme un artisan dans ma boutique et me dire, voilà, je suis là pour...
Simenon avait fait ça.
Ressembler. Ah bon? Non, je savais
Simenon
pas.
Simenon avait fait ça pour une sorte de performance, voilà.
D'accord.
D'écrire devant les...
Alors non, heureusement, les gens se demandent juste ce que je fais, mais ne savent pas ce que je fais, se demandent ce qui est ce type immobile qui est devant son écran, qui ne fait rien, parce qu'en l'occurrence, il n'y a rien de moins spectaculaire. Au moins, si je dessinais, j'aurais des têtes blondes penchées sur mon dessin, mais non, j'écris, et la plupart du temps, je n'écris pas, c'est-à-dire j'attends la phrase qui va venir le lendemain.
La dernière fois que vous étiez venu, vous m'aviez dit qu'il existait quelque part dans Paris, une jeune fille, oui, une petite fille en fait, de 11 ans, qui avait lu 3 fois Harry Potter, qui lisait tous les livres qui lui tombaient sous la main. Mais il y a des livres qu'elle lisait pas, c'était les livres de Timothée de Fombelle. Elle se refusait obstinément à les lire. Et en fait, cette petite fille, c'était la vôtre. C'est toujours le cas, elle refuse de vous lire.
Là aussi, vous êtes sévère de me rappeler ça, mais c'est vrai. Mais j'aime ça parce que, en fait, c'est un lien de plus entre nous. C'est une sorte de... Elle croit qu'elle a écrit mes livres. Je crois vraiment que c'est ça la clé, c'est qu'elle croit que, comme on en parle beaucoup ensemble, comme elle me connaît très très bien, elle a vraiment l'impression de les écrire et donc elle n'a pas envie de les lire. Cela dit, l'année dernière, elle était en quatrième, on lui a donné Céleste, ma planète, un de mes livres au programme, et elle a été obligée, et elle s'est retrouvée à faire un week-end avec un devoir sur table le lundi matin, et obligée, furieuse, de devoir lire mon livre pour pas avoir 0.
Et vous l'avez aidée dans ses devoirs?
Je l'ai pas aidée, mais j'ai reçu une belle lettre de sa prof quelques jours après, me demandant peut-être venir parler aux enfants de la classe.
Mais c'est insupportable pour elle.
Ah non, alors elle lui avait demandé, alors, beaucoup de délicatesse, elle lui avait demandé l'autorisation de me demander. Jeanne a accepté.
Très bien, c'est votre cas, Nicolas de Crécy. Il y a des enfants proches qui ont refusé de absolument de lire cette histoire de fantôme parce qu'ils avaient l'impression de l'avoir écrite déjà.
À ma connaissance, non, mais ça serait inquiétant de... Enfin, non, j'ai aucune idée. Ouais, enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais alors mes neveux et nièces, mais qui commencent à être assez, enfin, qui sont plus ados, qui sont déjà rentrés dans l'âge adulte.
Mais ils l'ont lu. D'ailleurs.
Je ne sais pas. J'espère, peut-être.
Ah, ils vous l'ont pas dit.
Non.
Et vous voulez pas savoir.
Non, pas spécialement.
J'ai
toujours un peu peur.
Oui, moi aussi.
On a toujours un peu peur de la vie de ses proches. De toute façon, c'est normal.
Jamais je demande à quelqu'un. Alors, t'as trouvé quoi?
Oui, c'est toujours très délicat.
Ah oui, quand même. On continue avec vous. On parle de cette histoire, Les amours d'un fantôme en temps de guerre. C'est votre premier roman illustré, Nicolas de Crécy, grand nom de la bande dessinée, mais qui passe au roman. On écoute, vous avez choisi Motor Bass, Pencil, c'est le titre de l'album. Et le titre, c'est Les ondes.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Motor Bass, Pencil, Les ondes, c'est le choix de Nicolas de Crécy qui est avec nous et Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle publie Capitaine Rosalie chez Gallimard Jeunesse. Nicolas de Crécy, Les amours d'un fantôme en temps de guerre chez Albin Michel. C'est votre premier roman illustré, Nicolas de Crécy. Là, on entend en fait du Étienne de Crécy.
Et oui, exactement. Voilà, c'est mon petit frère, Étienne. Donc c'était un de ses premiers... Ça date de 96, cette musique, donc c'était vraiment le tout début de ce qu'on allait appeler ensuite la French Touch. Ouais.
Grand nom de la French Touch,
voilà,
super discount.
Voilà, un des papes de la French Touch, comme on dit. Parce que j'aime bien ce morceau, il y a une espèce de sobriété, puis il y a un univers, enfin, quand j'écoute une musique, j'aime bien avoir des images, entendre une histoire. Et c'est vrai que là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a vraiment un univers, il y a quelque chose de qui m'intéresse.
Vous dessinez en musique quand vous travaillez.
À une époque, j'ai pas mal dessiné en musique, mais beaucoup moins maintenant. Ouais. Ouais. J'ai une culture musicale très très faible en fait.
Mais bon, vous pourriez écouter votre frère quand vous lancez.
Oui, il m'arrive de l'écouter effectivement, mais ça dépend des morceaux. Il y a des choses. Enfin, j'aime bien le calme, des musiques très très calmes quand je dessine. Il faut vraiment que ce soit calme.
Alors, vous connaissez comme l'auteur du Bibendum célèbre. De Léon Lacam qui avait obtenu l'Alphard du meilleur album, c'était ça.
En 98, à un moment.
Festival d'Angoulême. Période glaciaire qui se passait au Louvre, recouvert d'une neige. Je crois que c'est mon préféré. période glaciaire, voilà, avec ses tableaux. D'ailleurs, c'est pas sans lien avec les amours d'un fantôme, parce qu'on retrouve cette présence de l'art aussi dans votre livre. Et vous voilà désormais du côté du roman illustré, avec donc les amours d'un fantôme en temps de guerre, chez Albin Michel. Des fantômes et des fantômes amoureux. Le livre d'ailleurs vient d'obtenir le prix vendredi. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui se trouve plongé dans la guerre. Une guerre qui n'est pas celle des hommes, mais qui ressemble vraiment énormément à une guerre qu'ont connue les hommes, qui est la Seconde Guerre mondiale. Elle est tout à fait symétrique, cette guerre des fantômes et cette guerre des hommes, puisqu'on retrouve les collabos, la milice, la Gestapo, les maréchaux. Alors là, on est du côté des fantômes, les FA, les fantômes acides. Et puis en face, il y a l'autre camp, le camp des gentils, les résistants, auquel appartient votre jeune fantôme. Alors c'est un jeune fantôme, mais qui a quand même 89 ans, hein, il le dit. C'est comme ça d'ailleurs que commence le livre. Et c'est un récit, donc un roman, on le disait, mais qui est augmenté par de superbes images qui sont les vôtres, Nicolas de Crécy, puisque vous êtes avant tout un artiste, un dessinateur, un peintre aussi. Hein,
la peinture, oui, un petit peu, j'essaye.
Voilà. Et donc, en vis-à-vis de votre texte, on retrouve ces images absolument superbes qui nous montrent des fantômes déchirant un ciel gris ou bleu, un peu polaire parfois, ou ces fantômes atroces, sans visage, mais avec des médailles et des casquettes militaires, chamarrées d'or et de décoration. Une imprimerie de glace aussi, où les fantômes résistants impriment leurs tracts. Des fantômes tueurs, d'autres qui décident de lutter, qui se retrouvent parfois enfermés dans des drôles de tubes de métal qui sont pires que des prisons. On apprend dans ce livre aussi, on lira, on vous entendra le lire d'ailleurs, la véritable façon dont naissent les fantômes. Et on apprend que les fantômes vivent l'histoire des êtres humains avant les êtres humains. Alors il s'agit encore d'une histoire de fantômes. C'est pas la première fois, je me souviens d'un travail que vous aviez fait sur les yokai, ces petits esprits japonais, parce que vous êtes une sorte de demi-dieu au Japon. Vous avez exposé, vous avez vécu beaucoup au Japon. Je crois que c'était chez Soleil, hein. Ça s'appelait Un monde flottant, yokai et haïku. Vous avez aussi publié La République du catch dans un manga, donc au Japon, hein, donc oui. Invité à publier dans les grandes revues de manga qui sont extrêmement importantes au Japon, une revue qui s'appelle Ultra Jump, où il y avait déjà des combats de catch, mais entre fantômes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette... Alors, est-ce que c'est graphique? Est-ce que c'est métaphysique dans
oui,
le fantôme?
Il y a un petit côté graphique, en fait, ouais. Parce qu'un fantôme, c'est très facile à dessiner, c'est juste un drap blanc. On n'a pas ouais. effectivement à se fatiguer à dessiner des cheveux, des oreilles, un nez, des yeux, et de faire passer... Parce que faire passer une expression par l'œil, par la forme de la bouche, sur un humain ou même sur un animal, c'est quelque chose de compliqué. Donc le fantôme, c'est pratique. Et en plus, graphiquement, c'est assez beau parce que on a juste comme une espèce de lumière qui est ce drap blanc. Et autour, le décor est très fouillé. Donc c'est vrai que ça offre des possibilités de mettre toute l'ambiance dans le décor et d'avoir juste le personnage dont l'histoire est écrite en vis-à-vis. Donc, on a le sentiment par l'écriture et on a l'ambiance par le dessin.
Ils sont encore plus terrifiants. Là, je tombe sur la page 67, qui est absolument superbe, où on voit dans un véhicule type, oui, années 40, deux, en gros, Mussolini et Hitler.
Donc, on les reconnaît aux casquettes,
voilà,
effectivement.
On les reconnaît à leurs chapeaux, à leurs ouais. médailles aussi, mais surtout les chapeaux. Et puis juste en dessous, cette espèce de défilé de silhouettes blanches avec les fusils et les baïonnettes, ils sont encore plus terrifiants finalement, sans visage. Finalement, ça offre aussi une liberté de travailler sur, je vais pas dire l'horreur, mais la peur aussi, beaucoup plus facile que si c'était des humains.
Oui, parce qu'en plus, il y a un côté dans les fantômes, enfin, ce drap blanc, il y a un côté propre. Donc, c'est vrai que les représenter comme ça, dans un linceul blanc, qui a presque un côté de religieux, alors que c'est des monstres, parce que les fantômes acides sont vraiment des monstres. Enfin, c'est l'équivalent des nazis. Mais voilà, ils sont propres et immondes.
J'aimerais qu'on vous entende lire, parce que ce qu'on découvre dans ce livre, c'est la véritable naissance des fantômes. Comment ils naissent? Alors, moi, je pensais que c'était simplement des... Voilà, des morts qui trouvaient pas leur sépulture et qui hantaient les vivants, mais en fait, il y a un mécanisme beaucoup plus complexe.
En fait, c'est vrai que je me suis absolument pas renseigné sur les fantômes avant d'écrire, parce qu'il y a toute une tradition des fantômes et du spiritisme dont je ne me suis pas soucié, effectivement.
Et puis j'aimerais que, voilà, je vais vous demander un exercice un petit peu plus compliqué, plus raffiné, c'est-à-dire que quand vous aurez terminé de lire, j'aimerais que vous nous lisiez en fait l'image qui est en face aussi. Vous nous la décriviez,
c'est dommage, c'est
parce qu'on est en radio.
C'est pas celle que je préfère.
Ah bon ?
Mais pourquoi pas, je vais, voilà. Alors déjà, l'exercice est difficile et je ne suis pas un professionnel comme Timothée qui a l'air de... Donc, mes chers petits, vous devez d'abord savoir de quelle manière exactement naissent les fantômes. Vos parents ne sont qu'à moitié responsables de votre existence. C'est une chose que l'on n'apprend pas aux bébés fantômes. On leur dit qu'ils sont nés au sein d'une famille, comme cela se passe chez les humains. Or, la vérité est ailleurs, une vérité que les humains connaissent. Les spectres sont le résultat de l'émanation d'un défunt. C'est ainsi, nous sommes, vous êtes, l'émanation d'un mort. La décantation, l'essence ultime d'un dernier souffle. J'en frissonnais. Moi, émanation d'un défunt, voilà une nouvelle qui passait mal. Je connaissais le principe pour les spectres malfaisants, mais je ne me sentais pas apte à figurer dans cette catégorie. D'ailleurs, je n'avais aucun souvenir d'avoir été autre chose que moi-même. Cela dit, contrairement à ce que croient les hommes, continua Boris, le fantôme émanation se développe de manière singulière. Les défunts se décantent sous la forme de petits fils blancs qui voguent à l'intérieur d'une bourse spectrale. Une fois mis au monde, lors d'un accouchement limbique, ils vont se lier les uns aux autres et grandir pour former un minuscule bout de tissu. Celui-ci sera recueilli par un couple de fantômes adultes, d'un siècle au minimum, qui sont comme deux mamelles, et suffisamment aguerris pour éduquer la petite chose et la faire grandir en un beau drap blanc. Le principe de parent est donc juste, même si le terme de parent adoptif serait plus approprié.
Merci, Nicolas de Crécy. Donc Les Amours, c'est un extrait des Les Amours d'un fantôme. Et vous me disiez, en face, il y a un de ces pages magnifiques de dessins, à l'aquarelle, hein, c'est ça ?
Oui, voilà, à l'aquarelle. Alors en fait, on voit simplement, il y a trois personnages. Le personnage de Boris, qui est l'oncle, qui lui est résistant, mais les deux petits fantômes ne le savent pas encore. Donc dans le grenier éclairé par une bougie, on a le petit fantôme et sa copine, Lily, la petite fantôme, fantômette dont il est amoureux. Et voilà, donc Boris est en train de leur expliquer un petit peu d'où ils viennent.
Mais c'est pas votre préféré, en fait.
Le dessin, non, ouais. Il est un peu classique. Enfin, la perspective du plancher est pas très juste. Voilà, j'aurais
laquelle vous préférez?
Il y en a certaines qui sont mieux, qui sont plus riches.
Ouais. Alors, moi, j'ai une question métaphysique pour le coup sur le dessin. Ouais. Est-ce que le blanc est un blanc ou est-ce que c'est la page qui ressort? Parce que ça change tout dans l'aventure.
En effet, oui, ça change absolument tout. Et ça dépend des fois. En fait, quand je ne réussis pas le dessin, si j'ai un problème de lumière par rapport... Parce que je laisse normalement le papier... je trouve que c'est beau d'avoir la matière du papier qui figure le blanc. Ouais. Mais quelquefois, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais regouacher par-dessus.
D'accord.
Ou de l'acrylique sur lequel je vais remettre un petit peu jus d'aquarelle. Enfin, il y a toute une cuisine.
Parce que quand on voit la chaleur de vos couleurs, a priori, rien ne pourrait aller aussi mal que le blanc avec ces couleurs. Et pourtant... Le fantôme, justement, il y a quelque chose comme la page blanche qui est en dessous, qui apparaît. Et c'est des vrais tableaux. C'est ça qui est quand même très...
C'est magnifique.
C'est vraiment absolument magnifique.
Oui, c'est vrai que je me suis... en fait, moi, il faut que ça reste un plaisir. C'est-à-dire qu'il faut que je me régale à dessiner. Là, ça a été le cas. Je me suis vraiment régalé.
Et alors, pour continuer sur ces fantômes, ce qui, moi, m'étonne beaucoup, et je voudrais vous interroger là-dessus, c'est qu'en fait, évidemment, les fantômes sont blancs, réduits à leur plus simple expression. Mais alors, le décor, par contraste, est extrêmement détaillé. Il y a une image où on voit des dizaines de fantômes au-dessus des toits de Paris, qui est absolument formidable. Et il y a tous les détails, justement, des toits de Paris, etc. Et puis, c'est ces formes blanches qui envahissent. C'était important, par contraste, justement, de soigner le décor. En fait, l'image est assez complexe, parfois. Elle est riche, en fait.
Ah oui, elle est très riche, mais pour moi, c'est quelque chose de... En fait, j'ai un dessin qui tient mal. Si je suis sobre dans mon dessin, on va voir qu'il se tient pas, en fait.
Ah, c'est bien.
Et que,
très critique avec vous-même, Nicolas.
Je suis rigoureux, on va dire. Mais la nature a horreur du vide et je suis cette loi. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aime bien remplir les choses, enfin, mettre beaucoup de détails, ce qui me permet effectivement de faire en sorte qu'on voit pas les problématiques de dessin faible. Et puis pour installer une ambiance, c'est important. Effectivement, un décor, c'est obligatoirement riche. En dehors d'un décor de neige tout simple où là je vais devoir m'astreindre à être plus sobre. Et puis j'aime ça, quand il y a beaucoup de couleurs.
Et vous attendez justement des enfants qui vont lire ce texte aussi, qu'ils aient le même plaisir finalement à fouiller, enfin autant le texte que l'image en fait.
Ah oui, c'était vraiment l'idée, parce que moi je me souviens, enfant, les œuvres qui m'intéressaient le plus pour ce qui était du dessin, c'était les dessins les plus compliqués. parce qu'on pouvait voyager à l'intérieur, on pouvait aller décrypter tous les éléments. Plus il y avait de hachures, plus je trouvais ça passionnant. Plus il y avait de détails, plus ça m'intéressait. Et même très jeune, moi j'adorais le Sempé, mais pas le Sempé du petit Nicolas, plutôt les livres pour adultes comme Rien n'est simple ou Tout se complique ou des choses comme ça. Et ça, j'étais vraiment fasciné. Je comprenais pas très bien de quoi il s'agissait. Les textes qu'il y avait en vis-à-vis étaient un peu mystérieux pour moi, parce que j'étais enfant, mais j'étais vraiment très intéressé.
Et il y a eu d'autres livres, justement, liés à ce texte et à ces illustrations qui ont servi aussi de déclencheur à ce livre, ou des souvenirs d'enfance, de lecture.
Oui, il y a l'Enfer de Dante, illustré par Gustave Doré. Oui.
Que vous lisiez enfant.
Il y avait un grand livre chez ma grand-mère, enfin un livre grand format, comme ça, magnifique. Et j'ai passé des heures à regarder ça de près, et c'est vrai que pour moi, enfin... en tant qu'enfant, je n'avais aucun problème à m'intéresser à une image complexe et qui, a priori, ne m'était pas destinée.
C'est peut-être la différence, d'ailleurs, entre vous deux. Je disais qu'on vous avait réunis, on terminera par ça, parce que vous traitez tous les deux, pour un public plutôt jeunesse, de sujets graves, c'est-à-dire la guerre, la disparition, une sorte de récit d'initiation. On apprend aussi la difficulté du monde pour mieux, d'ailleurs, se parfaire, mieux y résister. Mais là où vous disiez que vous aviez choisi un langage extrêmement simple, extrêmement clair, extrêmement percutant, on a l'impression, Nicolas de Crécy, que vous choisissez le foisonnement, la complexité, en fait. Vous misez sur la complexité. Et c'est tout à votre honneur aussi.
C'est peut-être pas le fait que j'ai misé, c'est que naturellement, je m'exprime de cette manière-là.
Et c'est un miroir, c'est vraiment un miroir du dessin. C'est-à-dire l'écriture cisèle la description de la même manière que le dessin en face le fait. Et les enfants n'ont pas peur de ça. Ils vivent dans un monde complexe. Ils ont une familiarité. Ils ont 500 amis sur Facebook. Ils sont ou sur Instagram. Je crois que c'est plutôt Instagram. Donc ils se perdent dans le texte comme Nicolas, le petit Nicolas,
se perdait dans l'Instagram.
Non, je dis juste que j'insiste leur multiconnexion. Quand on dit dans mes livres il y a 100 personnages et que les enfants peuvent pas suivre, ils ont 500 copains sur Instagram. Pardon, c'est juste ce que je veux dire.
C'est
qu'ils vivent dans des mondes pléthoriques.
Là où je parlais de complexité, et c'est une des plus belles idées de votre livre, Nicolas de Crécy, c'est qu'il y a une scène dans un musée. Et en fait, vos petits fantômes regardent les tableaux et regardent notamment un portrait de Saint Thomas de Velasquez, regardent aussi un Christ en croix d'Urbaran. Et en fait, la manche du Saint Thomas, qui est blanche, où le tissu qui ceint les hanches du Christ, en fait, et donc vous imaginez un petit peu la forme, eh bien, vous dites que ce sont des fantômes, en fait. Et les fantômes colonisent même l'histoire de l'art. Ça, c'est une magnifique idée.
Ça, je l'ai installé dans le récit par hasard, parce que effectivement, en voyant le Saint Thomas de Velasquez, je me suis dit, j'ai vu le fantôme se découper dans la manche, parce qu'il y avait deux lumières différentes sur la toge, et une qui décrivait vraiment la forme d'un fantôme. Je me suis dit, c'est trop beau pour que je ne l'utilise pas. Donc, il m'a semblé intéressant de dire que, en fait, les artistes, tout au long de l'histoire de l'art, ont figuré ces fantômes sans le savoir eux-mêmes. Donc, ils faisaient des portraits de fantômes dans l'ignorance de ces fantômes.
Voilà, ça vous donne envie, Timothée de Fombelle, finalement. Vous preniez des conseils tout à l'heure sur le blanc de la page, etc.
L'envie ne suffit pas, malheureusement. L'envie ne suffit pas, mais ça me pousse à bosser dans l'écriture pour essayer d'approcher la beauté de l'image.
Ah.
C'est vraiment ça.
Merci. Deux livres pour la jeunesse extrêmement subtils, extrêmement beaux. Merci Nicolas de Crécy.
Merci.
Voilà, Les Amours d'un fantôme en temps de guerre, c'est chez Albin Michel. Et merci beaucoup Timothée de Fombelle, Capitaine Rosalie, illustré par Isabelle Arsenault, c'est chez Calimard Jeunesse. Merci à vous.
Merci.
Voilà, et puis je rappelle toujours l'inoubliable Toby Lawlness, mais aussi Van Gogh, formidable roman d'aventure pour les enfants, et j'en sais quelque chose. Merci à vous. Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard avec la complicité de Joyce Brunet-Jailly, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Alain Joubert à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, tweeter, podcaster pendant un an et réécouter pour l'éternité sur franceculture.fr 7h avec Nicolas de Crécy et Timothée de Fombelle.